La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Pourquoi les zèbres sont-ils zébrés ? Longtemps, les savants ont pensé que c'était pour mieux se camoufler, leurs rayures venant perturber d'éventuels prédateurs. Certains autres savants, moins nombreux, allant même jusqu'à imaginer que c'était pour mieux effrayer et donc dissuader ces prédateurs. Il n'en est rien, les zébrures ne jouent aucun rôle, si j'ose dire, de ce point de vue, car c'est bien la prise en compte d'autres points de vue, d'autres regards, mais surtout d'autres yeux, ceux des prédateurs, qui a permis d'établir ce qui est désormais considéré comme un fait scientifique. Dans un essai brillant, le philosophe Thibaut de Meyer raconte cette découverte et surtout ce qu'elle implique pour la connaissance. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et d'un sens, la vue, on basculera vers un deuxième sens, l'audition. Et des zèbres, on basculera vers les baleines dans la seconde partie de l'émission, puisque Aline Pénito nous rejoindra. Elle est compositrice et également documentariste, notamment pour France Culture. Bonjour Thibaut de Meyer.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie des sciences et des techniques à l'université de Namur, et vous publiez Qui a vu le zèbre, l'invention de la perspective animale aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors ce livre est tiré de votre thèse que vous avez soutenue assez récemment, mais c'est une version adaptée de ce travail absolument passionnante, et tout commence par une image que j'ai d'ailleurs retenue pour illustrer cette émission, une image qu'on peut voir en deuxième de couverture de votre livre, une image qui vous a tout simplement émerveillé au point d'y consacrer, en tous les cas de considérer que c'était le point de départ d'un long travail.
Exactement, donc c'est une image où on voit un zèbre, mais on le voit quatre fois. Et donc au début, on se dit que c'est simplement une sorte de copie, quatre fois le même zèbre. Ça pourrait presque ressembler en fait à des œuvres d'Andy Warhol qui recopiait 20
fois.
Oui,
des sérigraphies.
Des sérigraphies. Et donc on a cette impression qui est assez frappante. Et cette image-là, je l'avais rencontrée, je me rappelle de la date, parce que je l'avais envoyée à quelques amis par mail. Et donc c'était le 22 janvier 2016. Je l'avais vue dans les sites d'information scientifique, et elle m'avait frappé en disant, mais pourquoi il y a ces quatre zèbres multipliés de cette façon-là? Et puis je suis rentré dans l'article même, l'article scientifique où paraît cette photographie.
Au moment même où il paraît,
où il paraît le jour même.
Donc oui. C'est une recherche scientifique très récente. D'un article co-signé par plusieurs...
Par Tim Caro, Amanda Melin et puis un certain nombre de collègues. Mais donc cette image, elle m'avait frappé parce qu'en fait, elle posait la question, et c'était le titre de l'article, hein, les zébrures vues à travers les yeux de leurs prédateurs. Hein. Et ce titre était assez frappant en disant, mais il y a une question autour de ces images, une question de perspective qui se pose. Et justement, à l'époque, je travaillais assez fortement autour des travaux de Leibniz, hein, qui est un philosophe du 17e, 18e siècle, qui a écrit notamment et qui a mis au cœur de sa philosophie le concept de perspective qu'il appelait monade, mais on retrouve c'est vraiment le concept de perspective qui est travaillé là. Et donc, je travaillais sur Leibniz. Et quand je vois cette image, je dis, il y a quelque chose qui doit être pensé de façon conjuguée, les penser ensemble et voir où peut nous mener. En fait, je me disais, il s'agit plus que d'un travail scientifique ici, on est en train de faire œuvre philosophique au milieu de cet article scientifique. Donc c'est ça que c'était probablement une intuition.
Alors d'un travail sur Leibniz qui vous fait aussi évidemment lire Nietzsche, on en reparlera parce que c'est quand même l'inventeur de ce concept de perspective au sens philosophique du terme. Lire évidemment ce que Foucault a pu écrire en repartant de Bentham sur le panopticon. Voilà pour les références ou quelques-unes des références philosophiques. Mais en fait, vos lectures ont consisté peut-être surtout d'abord en des textes d'éthologues, comme ces deux personnes qui ont co-signé l'article dans lequel vous avez trouvé cette image en fait.
Oui, donc c'était vraiment mon objectif de faire une recherche, d'essayer de construire une philosophie avec des éthologues, de voir, en fait, il y a une phrase, une citation de William James,
un philosophe pragmatiste américain,
qui me plaît, et qui dit plus ou moins à l'entrée d'une de ses conférences, vous savez, vous faites tous, mesdames, messieurs, à l'époque, il disait simplement mesdames, messieurs, vous faites tous de la philosophie. Hein, il commençait son introduction et en fait, le travail son travail en tant que philosophe pragmatiste, c'est pas tellement de construire sa propre philosophie, quoique en fin de compte, on la construit en même temps, mais la construire en tout cas tout le temps avec d'autres qui ont déjà construit des philosophies.
Et donc, en imaginant des expériences, notamment de psychologie à l'époque.
Voilà, donc William James lui-même était embarqué dans ces projets-là de faire des philosophies pratiques, des philosophies avec. Des non-philosophes, mais qui font également de la philosophie. Et donc, c'était un peu ce pari-là aussi que je me disais. Avec les éthologues, on peut aussi faire de la philosophie. On peut faire émerger. En fait, c'est un travail de dire, il y a peut-être un peu plus que ce qu'on voit peut-être à la surface ou la première lecture, et puis trouver des mondes qui se créent dans ces recherches-là.
Alors, c'est faire de la philosophie, mais faire de la philosophie dans les années 2020, c'est-à-dire un moment où on est aussi préoccupé par ces questions de point de vue, par les questions de la multiplication du point de vue. C'est faire de la philosophie après Donna Haraway, par exemple, qui a pensé les animaux dans sa philosophie, après, évidemment, Bruno Latour ou Philippe Descola. Et donc, c'est dans tout ce contexte et avec toutes ces références que vous avancez également. Mais vous avancez en prenant le soin de faire un détour, et nous aussi, on va commencer par là, un détour par l'histoire de l'art et par l'invention de la perspective telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Et vous rappelez, mais peut-être c'est assez pertinent d'y revenir, cette expérience assez incroyable qui s'est produite à Florence, dont on a peu de traces au fond, mais qui permet véritablement de comprendre ce qui s'est opéré là et qui a joué un rôle décisif dans le fait qu'aujourd'hui on pense la nature de manière séparée de nous au fond. Thibaut de Meyer.
Tout à fait. Donc, d'abord, juste pour indiquer comment la question de la perspective en art est apparue, c'est que, en fait, dans les images du zèbre, où les scientifiques se demandent mais comment on va être capable de reproduire le point de vue des zèbres, ben, on trouve en fait dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de la peinture, cette même question, simplement que la question n'était pas posée par rapport à d'autres animaux, mais par rapport aux humains. Comment reproduire le point de vue d'un observateur supposé humain.
Pour reproduire un bâtiment.
Reproduire. Et donc, c'est pas un exemple, c'est vraiment l'exemple cardinal, le paradigme utilisé en perspective. Comment reproduire le baptistère de la place San Giovanni à Florence, hein, le premier exemple de Filippo Brunelleschi, qui va tenter, donc c'est en tout cas lui c'est lui qu'on considère le plus souvent comme l'inventeur de la perspective. Vous savez, les historiens, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a inventé une sorte d'expérience pour démontrer que cette technique reproduisait bel et bien le point de vue, la façon de voir une scène à partir d'un certain point dans l'espace. Et pour ça, il avait inventé une sorte d'expérience qui est tout un jeu. Alors, c'est difficile de l'expliquer à la radio sans la vision, mais on peut essayer de le faire. Il avait peint donc sur une petite tablette, 24 cm sur 24. Hein,
et presque un iPad, en fait.
Presque un iPad, un
peu plus gros. Je dis ça parce que ça fait référence au travail que fait David Hockney sur les iPads aujourd'hui.
Très bien. Et lui-même s'était intéressé à Brunelleschi. Et donc, sur ce petit tableautin, ce qu'il avait fait, très intelligent, c'est de percer un petit œilleton, un petit trou au milieu du tableautin, en fait, à l'endroit où il y a le point de fuite. Et puis, il faisait venir des passants. Et donc, certains considèrent que c'est en fait la première expérience scientifique qu'on peut répéter, qu'on peut faire, en tout cas, une première expérience de type psychologique. Et il demandait aux passants de se mettre à l'endroit même où lui se trouvait au moment où il avait peint cette peinture, ce petit tableautin. Et puis il demandait, très curieux, Brunelleschi, c'est vraiment un joueur, on voit il y a d'autres endroits aussi dans sa biographie,
il
s'amuse. Et il demandait aux passants de prendre le tableautin et de plaquer ce tableautin sur leur visage, mais face vierge contre leur visage. Et donc la peinture, il ne pouvait plus la voir. Elle était de l'autre côté, il ne pouvait pas la voir. Par contre, à travers l'œilleton, il pouvait voir le baptistère directement depuis le baptistère, le véritable baptistère. Et c'est seulement dans un second temps que Brunelleschi passait à ses participants, à cette expérience, un miroir. Et puis il demandait aux passants de regarder le reflet du tableau dans le miroir et de bouger le miroir jusqu'au moment où les lignes,
les deux
semblaient ou bien se superposer, le miroir prenait la place du bâtiment, ou bien ce qu'il cherchait en fait davantage, c'est de faire baisser un peu le miroir pour voir que les lignes étaient en parfaite continuité, comme si la peinture pouvait prendre la relève de la réalité. Et donc ça, c'est tout le travail de Brunelleschi qui inventait tout un jeu. Et ce qui me paraissait important de retrouver, je l'ai retrouvé aussi grâce à des auteurs comme Hubert Damisch, comme Philippe Comard, c'est de dire, dans la perspective, même si après on a une histoire qu'on va raconter dans un instant, notamment avec Philippe Descola, à la base, il y a une sorte de jeu qui me semblait très amusant et très important aussi dans ces histoires de perspective. Il y a très souvent des histoires de jeu.
Et qui va être reprise par de nombreux artistes et peintres de la Renaissance après Brunelleschi, mais aussi perfectionnée ou avec d'autres techniques, la chambre obscure notamment, la caméra obscura, Léonard de Vinci. Bon, toute chose, ce secret au fond qui a mis à jour récemment dans ce livre David Hockney, donc que je citais tout à l'heure, en partageant cette façon de faire très très ancienne de la peinture dont lui-même se servait. Mais au fond, ce qui se joue là est très important parce qu'on en trouve aujourd'hui les traces sur nos téléphones portables qui désormais font appareil photo ou dans toutes les caméras. Mmh. C'est-à-dire que la manière qu'on a de voir le monde découle directement de ce type de perspective linéaire, en fait.
Oui, ça c'est tout à fait l'analyse qu'en fait Hubert Damisch. J'ai dit, en fait, c'est pas tellement la Renaissance, l'époque de la perspective, c'est à la Renaissance qu'on l'invente, mais c'est aujourd'hui qu'on est là, dans la véritable époque, avec les appareils photo, avec les caméras, avec aujourd'hui les smartphones, etc., où on rentre dans une époque, en effet, l'époque de la perspective, c'est maintenant. De la perspective linéaire, c'est probablement maintenant plus que jamais. Et cette perspective linéaire est liée en fait aussi, et ça c'est des travaux, notamment le travail récent de Philippe Descola, qui essaye de rattacher, de rapprocher la perspective linéaire à une certaine ontologie, à une certaine façon de concevoir l'ameublement du monde, de quoi est fait le monde, et de façon très caractéristique dans les représentation en perspective, ce qu'on a en fait, et on le retrouve en fait dans l'expérience de Brunelleschi. En fait, c'est très très enrichissant de passer par cette expérience, parce que dans cette expérience, l'observateur se trouve à l'extérieur du tableau, caché même par le tableau teint. Hein, et la scène reproduite, elle est à l'extérieur, séparée de l'observateur.
Dans un autre monde.
Dans un autre monde, l'observateur est
hors du monde.
Il est extérieur du monde. Et la scène elle-même n'est pas censée voir l'observateur, alors que l'observateur, lui, voit de façon panoptique le monde. Et donc on arrive là vers des histoires qui vont rapprocher...
Avec une dimension ontologique, mais des implications épistémologiques aussi pour la connaissance, pour la façon qu'on a de connaître le monde et de connaître les choses qui sont considérables. Parce que, je le disais tout à l'heure, ça nous place à l'extérieur du monde, de la nature donc, ça entretient l'idée au fond qu'il pourrait y avoir une objectivité de ce monde, qu'on pourrait, avec une seule image, au fond, représenter le monde. Alors évidemment, tout ça a été contesté, critiqué, mais on garde l'idée, par exemple, qu'en multipliant les images et les points de vue, on parviendrait à atteindre cette objectivité, en quelque sorte.
Oui, et donc on a l'idée aussi, dans cette objectivité, c'est qu'on a un monde séparer des perspectives, même si on peut les multiplier, ces perspectives, le monde lui-même n'est pas travaillé par les perspectives, n'est pas traversé par ces perspectives. Et cette façon de concevoir, de diviser le monde entre d'un côté les objets qu'on peut voir et puis d'un autre côté les sujets qui voient, c'est la manière naturaliste de diviser le monde. C'est comme ça qu'en parle Philippe Descola.
Alors je crois que c'est peut-être le moment de faire entrer le zèbre en fait, pour faire entrer le zèbre pour ruer un petit peu dans ces brancards au fond, dans ces manières de voir qui sont très ancrées en nous mais qui posent problème. Parce que ces photos du zèbre dont on a commencé par parler au début de l'émission, elles nous font saisir ce point de vue animal. Certes, on voit des photos du zèbre qui ont été prises par un appareil photo, par un humain qui l'a probablement déclenché, mais elles visent à restituer ce que serait le point de vue
du lion,
la vue du zèbre, vue d'un lion, vue d'une hyène, par exemple.
Oui, tout à fait.
D'un autre zèbre.
Et à partir de ce moment-là, en fait, on a déjà beaucoup plus de difficultés de ne pas penser au sujet. Parce que, en quelque sorte, dans la perspective, on tend à, en tout cas, à élider la question du sujet. On essaye d'éviter de penser à celui qui est en train de voir, même si c'est lui qui structure le tableau, l'importance. Tandis que dans ces images-là, dans les images de perspective animale, on rappelle l'importance du sujet, de celui qui est en train de voir. Et donc, on a un basculement de ce côté-là.
Ça veut dire qu'on a un point de vue situé.
Un point de vue, en tout cas, on rappelle que le point de vue n'est pas un point de vue objectif, neutre, etc. Mais que c'est un point de vue particulier, un point de vue qui n'est pas le point de vue universel. Et puis, et là je compare en fait ces travaux du zèbre avec un ensemble d'autres travaux qui essayent aussi de reproduire le point de vue le point de vue des animaux. Hein, je passe chez Jacob von Uxküll, un éthologue balto-allemand germanique, qui lui-même a aussi produit dans les années 30. Hein, dans les années 30, il a produit des images un peu du même type que celle du zèbre vue par d'autres animaux, simplement qu'il mettait par exemple un village tel vu par un chien, un village vu par un mollusque, un village. Et donc on avait aussi l'importance chez Uxküll du point de vue, qui est en train de voir. Par contre, on n'avait pas ce qu'on n'avait pas dans l'œuvre d'Uxküll, c'est la question de la relation. Pourquoi on ne s'est jamais posé chez Uxküll la question de savoir, mais pourquoi on veut savoir comment un village est vu par un mollusque. Donc, chez Uxküll, on a un type de perspective que j'appelle laudatif, parce qu'il vise à célébrer la diversité des perspectives. Ça, c'est le projet d'Uxküll.
C'est un appel à la multiplication des points de vue. C'est déjà énorme.
Qui est déjà un très beau projet. Et c'est un projet qu'on retrouve dans un très beau livre pour enfants de Guillaume Duprat, un zoo-optique aussi, où on va voir 20 fois le même paysage, mais vu par des espèces différentes.
Un livre qui a paru il y a une vingtaine d'années.
Il y a une dizaine d'années. Je pense que 10 ans exactement. Un très beau livre. Mais là aussi, on est du côté de la célébration de la diversité. Par contre, ce qui était très particulier et ce qui m'a frappé en fait dans les images du zèbre, c'est qu'on n'était plus simplement dans la célébration de la diversité. On était les points de vue qui étaient étudiés. C'était spécifiquement, ça devait être celui du lion, la perspective de l'hyène, parce que c'était ces êtres-là qui vivent en relation avec le zèbre. Donc, on ne pouvait pas simplement multiplier à l'envi.
Un mollusque et un village, c'est moins pertinent qu'un lion et un zèbre.
Voilà, et donc, dans le mollusque et le village, on peut se poser la question, mais pourquoi un village et pourquoi un mollusque? Et il y avait une sorte de célébration de la diversité, mais en même temps, une création de... Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Donc, une sorte de création de quelconque. Oui.
Alors, pour les expériences de pensée, dans les années 30, cet auteur balto-allemand, Uxküll, pouvait imaginer des choses, mais il n'avait pas vraiment les moyens scientifiques d'investiguer tel qu'on en dispose aujourd'hui. Et c'est ça aussi que les éthologues contemporains peuvent apporter à travers des expériences assez complexes, mais qui leur permettent de comprendre, au fond, de mieux restituer, finalement, les yeux des animaux qui les intéressent.
Oui. Et donc ça, c'est tout un pan, en fait, de ces images. Elles deviennent tout de suite aussi beaucoup plus, je pense, beaucoup plus belles au moment où on commence à rentrer aussi dans leur histoire. Comment elles ont été produites. Ne pas penser ces images comme des images finies, mais en fait, les pensées comme des processus et se demander, mais elles sont le résultat et probablement le résultat momentané d'un processus. Et se rentrer dans ce processus, ça a été pour moi c'est vraiment des histoires passionnantes où on rentre en fait dans des rencontres entre scientifiques et animaux, entre scientifiques particuliers et des animaux particuliers. Et c'est toutes ces relations-là que j'essaye de raconter aussi dans le livre. Alors
c'est une longue histoire. Hein. La question des rayures des zèbres est une très très longue histoire, qui a partie liée avec l'histoire du darwinisme aussi, parce qu'évidemment c'est un exemple assez formidable. Pourquoi des rayures? Alors ce qui vient spontanément à l'esprit et l'hypothèse qui apparaît le plus vite, c'est effectivement pour tromper les prédateurs. Et c'est ce qui a longtemps prévalu. Mais précisément, l'article de 2016 dans lequel vous avez trouvé cette image, qui est à l'origine de votre travail, vient remettre en cause tout cela grâce à un travail très précis. Peut-être vous pouvez en dire deux mots, Thibaut de Meyer.
Donc, la remise en cause, c'est d'abord... C'est tout à fait étonnant, cette histoire, l'histoire des études du camouflage est passionnante, en particulier l'histoire des zébrures. Et cette hypothèse selon laquelle les zébrures fonctionneraient ou seraient utiles pour se camoufler vient en fait d'une lettre de Francis Galton, qui est un neveu de Darwin, qui envoie une lettre à Alfred Wallace, et dans laquelle il explique, en fait, les rayures, évidemment, on pense que les rayures ne peuvent pas servir de camouflage, parce que justement, on le voit de façon particulièrement visible.
C'est le contraire d'un tissu de camouflage,
un zèbre. Oui, on a l'impression que c'est justement très visible. Par contre, Galton va nous dire, mais dans la pénombre, en début de soirée, on a du mal à les distinguer. C'est à ces moments-là que les lions et les hyènes attaquent. Et donc ils disent, et
c'est lié à une lumière particulière.
Une lumière particulière qui ferait une sorte de mélanger le noir et le blanc en une forme de gris, et que c'est ça qui créerait une façon de se camoufler. Et donc c'est à partir d'une seule observation, c'est très étonnant cette histoire, une seule observation qui va être reprise par Alfred Wallace, citée par Alfred Wallace, reprise... La citation d'Alfred Wallace, et ça va être l'hypothèse principale jusqu'en 2016, en quelque sorte. Jusqu'en 2016, ce n'est pas la seule hypothèse, mais ça va être l'hypothèse principale pour expliquer les rayures, basée sur une seule observation d'un humain. Et donc la question de Tim Caro, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut se baser sur une observation d'un humain alors qu'on est en train de parler de la vue d'autres êtres, les lions et les hyènes. Et donc à ce moment-là, il se dit, il faut prendre, et il faut changer de point de vue. Et donc la question du point de vue rentre dans cette histoire. C'est pas le premier à l'avoir pris en compte, mais en fait, prendre un point de vue, et c'est ça qu'aujourd'hui on entend peut-être très souvent, cette idée, il faut prendre en compte le point de vue des animaux, etc. Ce que j'essaye de montrer à travers des cas concrets, c'est de dire, mais en fait, c'est pas du tout facile. En fait, ça demande beaucoup de travail, d'efforts, d'imagination, de créativité, trouver le bon moment pour poser cette question-là. Je pense que c'est une question qui devient pertinente. Par exemple, dans ce contexte-là, elle me paraît très pertinente parce qu'elle permettait de poser autrement les questions et d'y répondre différemment.
C'est-à-dire que ces images ou ces façons de voir qu'ont les animaux, on peut y réfléchir à travers des expériences plus ou moins compliquées. Une expérience plus simple à laquelle vous faites référence concerne les chiens, par exemple, en fonction de leur taille. La simple prise en considération de cela, c'est-à-dire la hauteur du regard, fait qu'on voit le monde évidemment différemment et que ça peut avoir des incidences sur l'interaction entre un humain et son chien, par exemple, Thibaut de Meyer.
Oui, très bien. Et donc, évidemment, un problème aussi quand on parle simplement de prendre en compte un point de vue. Qu'est-ce que ça signifie prendre en compte un point de vue? Les points de vue sont probablement infinis, infiniment complexes, et donc on ne peut jamais prendre en compte un point de vue. Et la prise en compte d'un point de vue va toujours être contextuelle, relative à un problème donné. Et, par exemple, cette psychologue des animaux, Sarah Elisabeth Biosière, était assez étonnée de voir que certaines races de chiens réussissaient beaucoup moins bien les tests d'indication où un humain montre au chien
d'un geste de main
où se trouve la nourriture ou peu importe. Certaines races réussissaient beaucoup mieux ce test-là que d'autres.
En fonction de leur taille.
Donc au début, simplement, et elle se demandait, mais pourquoi il y a cette divergence dans les résultats? Et à ce moment-là, elle se rend compte qu'en effet, il y a une différence en fonction de la taille. Et c'est là que la question perspectiviste vient à elle. Elle lui dit, mais regardez, refaites les mêmes expériences et filmez en même temps les humains qui sont en train d'indiquer de la main. on voit des choses tout à fait différentes quand on les regarde depuis 20 ou 30 centimètres que quand on les regarde depuis 1 mètre, 1,20 mètre. Donc il y a des questions qui se posent qui, en fonction, simplement une perspective qui est liée au situs, à l'endroit où on se trouve. Et donc c'est une façon déjà, c'est pas une façon absolue, mais c'est une façon, c'est simplement de se mettre concrètement à la hauteur des yeux et dire, mais en fait, la hauteur nous donne déjà des indications sur le point de vue.
Le point de vue, c'est donc quelque chose de complexe. Pour le comprendre aussi, on peut revenir à Nietzsche, dont je parlais tout à l'heure, et aux traductions de Nietzsche. Parce qu'en fait, il y a cet aphorisme célèbre de Nietzsche qui est très intéressant, qui permet de comprendre ce que c'est que le perspectivisme, et vous allez nous l'expliquer. Mais selon les versions, selon les traductions, parfois on trouve le mot « regard » et parfois on trouve le mot « yeux ».
Oui, tout à fait. Donc l'aphorisme, c'est plus ou moins, plus on a dieux divers, variés sur une même chose, plus le concept de cette chose sera solide, objectif, etc. Hein, et donc
Ça, c'est un appel à la multiplication.
C'est une sorte d'appel à la multiplication.
Des points de vue.
Des points de vue. Mais après, il y a donc un problème pour savoir, dans les traductions, donc en allemand, c'est Augen, c'est les yeux. Et les yeux, c'est un organe, c'est un organe du corps. Ça fait, c'est autre chose de multiplier.
C'est pas le point de vue. Le point de vue, ça peut être une notion géométrique.
C'est ça. Tandis que le regard, en tout cas, dans le regard, il y a déjà moins cette notion du corps. On tend à oublier le corps quand on pense au regard, alors que quand on parle des yeux, ben, on le pense avec des êtres, c'est déjà un regard incorporé en quelque sorte. Donc il y a ce problème de multiplication. Qu'est-ce qu'on multiplie? C'est simplement des regards qui peuvent être désincorporés, ou bien ce sont des yeux. Et puis il y a le verbe très intéressant aussi qui pose problème pour la traduction, c'est einsetzen. Hein, au plus, dans les traductions, on va voir certaines traductions, au plus on a Dieu à notre disposition, mais à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez passif. On les a à notre disposition, on les a pas à notre disposition. Tandis que einsetzen, c'est activer, c'est arriver à rendre actif ses yeux. Est-ce qu'on arrive à rendre pertinent un certain nombre de yeux? Et à ce moment-là, je pense qu'on a quelque chose assez proche de ce que font Tim Caro et Amanda Mellin dans leurs travaux autour des zèbres, c'est de dire on doit tenter d'activer les yeux, et puis très particulièrement de façon très pertinente, c'est de dire pas les yeux de n'importe quel être. Si on multipliait le point de vue sur le zèbre avec les points de vue des chiens, des corbeaux, on n'aurait pas beaucoup plus, on n'apprendrait pas beaucoup plus sur les zèbres. Par contre, quand on pense au point de vue avec les êtres qui vivent en interaction, et je pense que là on a quelque chose quand même qui émerge, c'est une philosophie de l'interaction, c'est-à-dire on doit penser aux êtres avec les espèces compagnes, pour utiliser un concept de Donna Haraway, dire les êtres qui vivent et qui en interaction les uns avec les autres.
Pour être avec Donna Haraway jusqu'au bout, on pourrait même ajouter les machines à tout ça.
Et les machines, donc j'ai notamment une section sur certaines images prises par des télescopes satellitaires, justement parce qu'il y a des philosophes qui ont tenté de repenser la perspective à partir de ces images-là. Et avec Donna Haraway, justement, elle-même reprend ces images-là pour dire, mais même ces images-là sont incorporées, il ne faut pas l'oublier. Alors que certains, dans certaines élaborations philosophiques autour de ces images-là, on va décrire simplement le fait qu'elles sont des images partielles, mais on oublie en même temps tout le processus qu'il y a dans la construction de ces images-là. Et donc, en fait, la construction d'une image, c'est toujours aussi la construction de certains mondes en amont et aussi en aval de la production des images. Et donc, toutes les images sont toujours en processus.
Dans la belle préface qu'elle a fait pour votre livre, Vinciane Després dit qu'au fond, vous aussi, vous êtes dans une démarche laudative comme celle d'Exmul. Mais laudative à condition, toutefois, de bien être dans cette dimension relationnelle des points de vue. C'est ça que vous apportez en plus. C'est ça qui permet peut-être de nous faire basculer, de faire changer notre regard sur le monde, sur les machines comme les animaux, au fond, et de se sortir de la perspective telle que l'histoire de l'art l'a ancrée en nous. Vous diriez qu'aujourd'hui, lire de l'éthologie, en savoir davantage sur la façon dont les animaux nous voient, nous permet au fond de voir le monde autrement.
Oui, je pense que dès qu'on on se pose ces questions-là, on regarde tout de suite en fait le monde différemment. Ce qui peut apparaître comme quelque chose de non pertinent pour nous, au moment où on se pose des questions sur les perspectives d'autres animaux, on dit, ah, mais en fait, ce petit bruit-là, ah, ça peut être très gênant pour telle ou telle espèce. Ah, telle. Donc, le monde nous pose des nouvelles questions à partir du moment où on l'interroge à travers un ensemble d'autres points de vue. Hein, sur le caractère laudatif, disons, j'ai moi-même aussi cette volonté de célébrer le travail des artistes, le travail des scientifiques. Et j'étais très réticent dans un premier temps à mettre en relation l'histoire de l'art, et en particulier l'histoire de la perspective linéaire, avec les éthologues, parce que je le prenais trop d'un point de vue critique, où je partais avec, disons, les notions que j'avais grâce à des scolaires notamment, héritées, oui. Où, en effet, je pense qu'il faut avoir ce mouvement critique de dire ces images ont créé une sorte d'ontologie de laquelle on a du mal aujourd'hui à en sortir. Mais je ne veux jamais travailler, jamais présenter quelqu'un ou une œuvre ou une tradition seulement de façon négative. Et donc quand j'ai découvert tout le jeu qu'il y avait chez Brunelleschi, là ça m'a donné, disons, la flamme qu'il me fallait, l'enthousiasme qu'il me fallait pour rentrer dans cette matière et me dire en fait il y avait du jeu, et l'histoire de la perspective linéaire aurait pu être très différente en fonction des lignes qui est tracée. Et tout l'objet, disons, de mon livre, c'est de chercher à l'intérieur même des sciences, et ça c'est peut-être un petit pas. En même temps, Philippe Descola, je pense que c'était assez clair dans les réponses déjà qu'il était très important dans l'élaboration de mon travail. Mais je voulais montrer qu'au cœur même des sciences, qu'il associe lui-même au naturalisme, il y a des petites brèches, des petites fissures qui se créent, et où on peut-être trouver des manières de créer, ou peut-être des sortes d'ontologies qui sont en train de se créer au milieu même des sciences.
Dans le travail scientifique.
Dans le travail scientifique. Et donc ça, c'est des mouvements que j'essaye de chercher et de raconter.
On continue à parler de tout ça avec vous, Thibaut de Meyer, dans la seconde partie de l'émission. On bascule des images vers les sons, des zèbres vers les baleines. C'est avec Aline Petitot qui nous rejoint, mais c'est après un extrait du nouvel album de Vampire Weekend, Ice Cream Piano.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Fuck the world, you said it quiet. No one could hear you, no one but me. Cynical, you can't deny it. You don't want to win this war, cause you don't want the peace. Armistice, we never tried it. You're a soldier, I'm police. Listen, baby, weaponized as soon as it had passed your lips. I'm a gentleman, I refuse to show my gentleness. Fuck around and find out the anger child decides this every day. The universe will cry out the truth, which is you've got nothing to say.
I know the word don't recognize a single one. softly reach the high note. The world don't recognize a singer who won't sing.
Parle de perspective animale aujourd'hui. À la suite dans les idées, on a parlé de ce que voient les zèbres et surtout de ce que voient ceux qui aimeraient bien manger les zèbres. Mais au fond, ce qu'on n'a pas dit, c'est que finalement la vue avait assez peu d'importance pour parvenir à croquer un zèbre. Ce qui comptait, c'était d'autres sens et en particulier les odeurs des zèbres. C'est ça qui permet à ces animaux qui sont incapables de voir les zèbres très loin, finalement de savoir qu'il y a un zèbre. C'est plutôt le fait de le sentir. Il y a d'autres sens. Il y a le son aussi, et c'est très important pour les animaux, n'est-ce pas, Aline Petitot?
Oui, énormément. Enfin, notamment les animaux qui sont sous l'eau, parce qu'à partir de 200 mètres, on ne voit plus rien. Donc, de toute façon, il est absolument nécessaire de user du son pour
circuler.
Et on
ne doit pas sentir grand-chose non plus.
Ah, si, il y a des histoires d'odeur quand même, hein, sous l'eau. Et ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le son sert énormément aux cétacés. Oui.
Alors vous êtes à la fois compositrice, vous faites de la musique acousmatique, et puis vous êtes également documentariste et vous travaillez, entre autres choses, sur ces fonds marins et ceux qui les peuplent.
Oui, alors bon, c'est toute une histoire, je suis aussi navigatrice, donc ce qui s'est passé, c'est que les baleines viennent au bateau. Et ça, on en témoigne toutes et tous, hein, qui sommes partis en mer assez loin. Elle cherche la rencontre. Donc moi, je suis partie de là aussi parce que ça, voilà, c'est toute une histoire. Parce que chaque baleine ou chaque dauphin est un moment très singulier et très étrange et très très beau. Et donc elles viennent nous poser aussi des questions. Donc et puis j'ai eu envie à un moment de me dire mais comment moi je pourrais rendre ces questions. Voilà, alors il y a toute une histoire, hein, c'est avec ça, mais bon, j'ai rencontré deux éthologues qui m'ont ouvert aussi tout un champ à mesure que je commençais à travailler le son concret, acousmatique, donc qu'on ne voit pas, qui sera diffusé dans des haut-parleurs à l'écoute de ceux qui, celles qui l'écoutent et pas dans une situation de concert avec quelqu'un qui joue devant. Et donc on use des micros, on use des haut-parleurs, on use tout un tas de choses, d'objets qui font du son. Et un bioacousticien, d'abord éthologue, qui me fait écouter des chants de baleines que j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà entendus, possiblement dans la coque du bateau. Et puis ensuite, donc il s'appelle Olivier Attan, et ensuite Fabienne Delfour, qui elle est neuroscientifique, éthologue également, et qui est probablement la personne au monde qui a passé le plus de temps dans l'eau, au contact des grands dauphins et des cétacés en général. Et on commence à discuter de tout un tas de choses, et je fais une trouvaille, en fait, comme dirait Schaeffer, donc, qui a inventé la musique.
Pierre Schaeffer.
Et pas l'autre Schaeffer, parce qu'il y a plein d'histoires de Schaeffer dans nos affaires.
Très liées à cette maison Radio France.
Ouais. Donc je fais une trouvaille à l'oreille qui est que les baleines à bosse et le basson ont des relations timbrales très très fortes qui font que à l'époque, je ne suis pas encore retournée au contact des baleines, mais je m'amuse à les composer et ni les bassonistes, ni les bioacousticiens, ni même parfois moi, si j'oublie un peu ce que j'ai fabriqué, savent reconnaître la source du son. Et là, on se dit, eh ben, on tient un fil, on tient quelque chose, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et puis évidemment, la grande envie d'aller poser la question aux baleines. Et donc je suis partie à La Réunion, où je vis en partie, ma famille est là-bas, où les baleines dont je parle sont les baleines à bosse, viennent migrer pendant l'hiver austral, l'été ici. Et c'est à ce moment-là qu'elles se reproduisent et qu'elles chantent, possiblement dans une opération de séduction. Et puis je pars avec un haut-parleur marin, je pars avec des hydrophones marins, donc des micros qu'on peut mettre dans l'eau. Et je me suis rappelé ça en vous écoutant, Thibaut Demeyer, la première fois que j'ai le matériel, enfin. Et le premier été, en fait, il n'y avait pas de baleine. Donc, j'ai diffusé dans l'eau la litanie For the Whale de Cage, qui est aussi une histoire de questions-réponses. Questions-réponses, silence.
John Cage, donc, ouais. Le musicien.
Ce qui s'est passé est très étrange, c'est-à-dire que ce ne sont pas les baleines à bosse qui sont venues ou qui ont répondu d'une manière générale, mais ce sont des rémoras. Et les rémoras sont des requins pauvres en nage et qui ont une sorte de grippe sur la tête et qui s'agrippent aux grands cétacés pour les suivre dans leur migration. Et alors là, c'était fou parce que bon, les pêcheurs nous avaient dit qu'ils avaient vu des baleines, mais on ne les croyait pas trop, puis nous, on ne les a pas entendus. Et les rémoras, pourtant, sont venus à haut-parleur, quand le haut-parleur émettait, et puis pendant le temps de silence, ils s'en allaient, et pendant le temps d'émission, ils revenaient. Et donc ça, alors, on n'a jamais rien compris à cette histoire, mais c'était assez magique, quoi. Et puis après, je suis revenue.
On va poursuivre après. Des rémoras, il en est question dans votre livre, oui, parce que c'est des caméras embarquées, en quelque sorte. Il y a cette mode des films animaliers qui prennent le point de vue de l'animal en installant des caméras sur le dos des animaux. Pratique qui a été critiquée, vous rappelez tout ça dans votre livre par Donna Haraway, justement, Thibaut de Meilleur.
Oui, tout à fait. Donc, quand je viens de vous entendre, je dis, les rémoras. Et donc, c'est dans les années, disons, on a commencé à attacher des instruments de mesure sur certains animaux, surtout marins, parce qu'on avait du mal à avoir des mesures précises dans des fonds marins à partir des années 20-30, mais dans les années 80. Notamment un scientifique, un Greg Marshall, va avoir un projet qui était à l'époque assez fou, hein, mais de chercher à avoir des fonds pour pouvoir filmer, pour pouvoir accrocher des caméras sur certains animaux.
Donc, point de vue subjectif.
Et donc, l'idée, il présentait son projet comme enfin on va pouvoir voir le point de vue animal sur le monde. Et donc c'est comme ça qu'il est présenté. Et il a obtenu des fonds de la National Geographic qui va lui demander par après de créer aussi des petits reportages à partir de ces prises vidéo. Et puis Donna Haraway fait justement toute une analyse que je reprends, que je présente chez moi, parce que c'est une sorte de tentative de prendre le point de vue des animaux. Mais avec une médiation, on l'accroche. Et elle dit, mais en tout cas, cette première version où on dit que c'est le point de vue de l'animal, ça, où on aurait enfin le point de vue de l'animal, elle dit, ici, on n'est pas du tout dedans. Par contre, elle trouve dans les textes de Greg Marshall une métaphore qu'on va trouver. Elle va dire, en fait, ces caméras sont comme des rémoras, hein, qui viennent s'accrocher. Et s'accrocher, c'est déjà de l'ordre de la relation plutôt que de l'ordre de l'identification. Hein, donc, dans le point de vue, enfin, le point de vue animal, on est de l'ordre de l'identification. On aura le point de vue complet de l'animal. Côté de la rémora, on est plutôt du côté de la relation étroite. Mais on sort déjà du problème ou de ce désir d'identification. Et donc,
Aline Petitot, on a compris, la relation, c'est le plus important. D'ailleurs, vous avez commencé par là. Ces baleines qui viennent à votre rencontre.
Bien sûr. Oui, oui. Alors bon, c'est là où on devient fragile aussi, hein, quand on tente de s'adresser aux animaux, d'avoir une question, une réponse. Quelle est celle-là ?
Un dialogue. Est-ce que c'est un dialogue ?
Déjà, on n'est pas en train de converser. Enfin, bon. Voilà, alors moi je sors le parapluie de la musique, c'est assez pratique finalement, parce que on n'est pas en train de dire quelque chose, on est en train d'échanger à l'intérieur d'une matière sonore, à l'intérieur d'une émotion, à l'intérieur de quelque chose qui est déjà un peu au-delà de nous-mêmes, quoi. Hein. Donc on est au-delà des mots, on est bon. Donc, et puis c'est la seule chose que je sais faire. Donc du coup, je pars avec. Avec mes sons, je les ai beaucoup plus travaillés, je retourne là-bas. On a travaillé aussi avec Timo Schwartz, Adir Kham, il a qualifié ça de « concrete sound element ». Donc on a comme ça un peu déconnecté les choses de leur source. Et je commence d'abord à écouter, en fait, avant même d'émettre un son. Et ça a été le deuxième bouleversement après les rémoras. C'est-à-dire que devant nous, en direct, enfin devant nous, à nos oreilles, en direct, par un hydrophone, est en train de jouer dans les fonds un animal qui fait 17 mètres de long et qui a une capacité subtile d'utiliser les sons de Maria Callas. Donc du coup, moi j'ai tenu la première fois 2 minutes. Donc déjà, il a fallu que je m'adapte à l'émotion. Voilà. Et puis ensuite, avec mes sons qui me semblaient être des petits pouettes-pouettes, quoi, je tente un peu de repérer dans le chant des baleines, qui est pour la baleine à bosse faussement simple, mais disons unité sonore, presque note, silence, unité sonore, et puis un autre son qui est une sorte de raclement qu'on appelle le son pulsé, et elles font des phrases et des sous-phrases, et ça, ça a été analysé. Et je tente de lui signifier que je reconnais une structure d'un de ces sons, et que j'ai quelque chose qui y approche, et que ça revient. Donc je reconnais aussi le moment où ça revient. Et j'ai fait ça 8 fois à La Réunion, et il s'est toujours passé la même chose. Évidemment, il y a tout un encadrement derrière de facteurs de dérangement, de temps d'exposition, de volume qu'on avait travaillé. Et à un moment, elle me raconte aussi qu'elle m'entende, et puis elle change, et je change, elle change, et je change. Et donc là, il y a un échange hein, qu'on a. Ensuite, j'ai laissé les scientifiques prouver ça en analysant. Mais elles ont emmené vers quelque chose d'incroyable, qui est le travail sur ce son pulsé. Et le son pulsé, c'est une sorte de ronronnement. Et ce ronronnement, pour nous humains, il est absolument incroyable et bouleversant, et on s'est psychiquement effondré.
Merci Aline Pénito. Votre travail, on peut l'entendre sur France Culture, sur le site de France Culture, La réponse de la baleine à bosse. C'est un documentaire dont vous êtes l'autrice, qui avait été diffusé en août 2020. Il est accessible sur le site, on mettra le lien. Merci beaucoup Thibaut de Meyer. Je rappelle le titre de votre livre, Qui a vu le zèbre, l'invention de la perspective animale. Il paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson, à la réalisation Anne-Laure Chanel.